VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manila-Kizza, ravi de vous retrouver pour ce bulletin d'information. Burkina Faso, des individus lourdement armés ont attaqué l'église catholique du village à Toulfé au moment où les fidèles célébraient la messe du dimanche. Cette attaque a eu lieu aux environs de 9h heure locale, temps universel, et a fait au moins 3 morts et des blessés légers. Des renforts ont été déployés sur les lieux. Selon un habitant de Toulfé, cette attaque a occasionné une panique dans le village où de nombreux habitants se sont réfugiés chez eux ou dans la brousse. Au Tchad, 4 militaires tchadiens et un journaliste de la télévision nationale ont été tués samedi dans l'explosion de leur véhicule sur une mine dans l'est du pays. Ils se rendaient sur une position de l'armée attaquée par le groupe djihadiste Boko Haram, faisant au moins un mort du côté de l'armée. Au cours de cette attaque, 23 combattants de Boko Haram ont été tués, a précisé le porte-parole de l'armée tchadienne. En Algérie, aucune candidature à la présidentielle du 4 juillet n'a été déposée au Conseil constitutionnel, a affirmé aujourd'hui la radio nationale, ce qui laisse entrevoir un report du scrutin. Le site d'information TESA affirmait qu'aucun gros candidat n'est parvenu à réunir le nombre de signatures nécessaires. La date limite de dépôt des candidatures a officiellement expiré samedi à minuit. Le Conseil constitutionnel doit statuer sur cette situation inédite lors d'une réunion aujourd'hui. La radio nationale n'a pas fourni d'autres détails ni mentionné de source. Le principal parti d'opposition soudanais a déclaré dimanche rejeter la grève générale prévue mardi par les dirigeants de la contestation, signe d'une division au sein du mouvement qui fait pression sur les militaires en vue d'un transfert au pouvoir civil. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été officiellement investi aujourd'hui, 2 mois après sa réélection controversée à la tête du pays, et promis des mesures d'apaisement vis-à-vis de ses adversaires. L'opposition, comme de nombreux observateurs, a dénoncé des fraudes massives et refuse de reconnaître sa victoire. En RDC, l'opposant Moïse Katumbi attendait toujours aujourd'hui en Afrique du Sud l'autorisation de survol et d'atterrissage de son avion à Goma, ville de l'est du pays, d'après Olivier Kamitatou, directeur de cabinet et porte-parole de l'opposant. M. Katumbi comptait s'y rendre 6 jours après son retour d'exil. Il a assisté samedi à Pretoria à l'investiture du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une animatrice d'une télévision privée sénégalaise, Adja Astou Cissé, a été placée en garde à vue après ses propos sur le viol dans les sociétés Apple qui ont provoqué des protestations devant le siège de la chaîne 7 TV à Dakar. Une autorité égyptienne a levé le gel des avoirs de l'ex-ministre de l'Intérieur Habib al-Adli, symbole de la répression des années Moubarak, qui ne fait désormais l'objet d'aucune poursuite judiciaire. Le général Habib al-Adli dirigeait d'une main de fer la toute-puissante police égyptienne, dont les exactions ont été l'un des déclencheurs de la révolte populaire de 2011 contre le régime du président Hosni Moubarak. Le maréchal libyen Khalifa Haftar promet de laisser rentrer chez eux les combattants qui s'en rendront à ses troupes livrant la bataille au chef du gouvernement reconnu par la communauté internationale Faïd el-Sarraj, selon un entretien à des hebdomadaires français, le journal du dimanche. Les Européens se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour renouveler leur Parlement européen. Aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ils ont voté jeudi. Les partis eurosceptiques devraient réussir une nouvelle poussée selon les sondages dans des pays comme la France, l'Allemagne et l'Italie. Les 3 Français, Kevin Gono, Léonard Lopez et Salim Machou, ont été condamnés à mort dimanche en Irak pour appartenance au groupe djihadiste État islamique. Ils ont 30 jours pour faire appel selon la loi irakienne qui prévoit jusqu'à la peine de mort pour quiconque a rejoint une organisation terroriste, qu'il ait combattu ou non. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a assuré que son organisation agissait comme médiateur impartial au Yémen après des critiques du président Abdrabo Mansour Hadi contre l'envoyé spécial onusien dans ce pays. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre oreille attentive. Le prochain dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Merci d'être à l'écoute de VOA Afrique. Bienvenue dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza, en votre compagnie ce soir, les agressions sexuelles à l'église. Le pape François a changé jeudi la loi canonique. Il a rendu obligatoire le signalement de tout soupçon d'agression sexuelle ou de harcèlement à la hiérarchie de l'Église. Ce droit canon oblige également à signaler toute tentative par la hiérarchie catholique de couvrir des abus sexuels perpétrés par un prêtre ou un religieux. Pensez-vous que cette nouvelle législation interne de l'Église universelle va mettre fin aux abus sexuels qui ont écorné l'image de l'Église et du Vatican? C'est le sujet de ce soir. Nous aurons en invité le père Gérard Mouret, qui est professeur de droit canonique. Nous essayons toujours de le joindre. Avant de l'avoir, nous avons un auditeur en ligne, c'est Alphonse Mbouaki qui se trouve à Kinshasa. Alphonse, bonsoir. Voilà. Alphonse, nous avons parlé de ces abus sexuels au sein de l'Église catholique. Le souverain pontife vient d'agir une loi désormais qui doit clarifier tout ça.
Les décisions qui ont pris les papes depuis le premier siècle de l'Église.
Et quelle va être réellement la valeur ajoutée de cette modification apportée par le pape François?
Oui, le pape a voulu faire référence et, au grand un problème qui est surgi l'année passée. Ça concerne les actes d'abus sexuels commis par les évêques. Parce que jusqu'à maintenant, la loi était très claire. Si un prêtre ou un diacre faisait quelque chose contre le sixième commandement, il était puni selon la justice de l'Église. Mais les évêques, c'était autre question. Comme ils sont des chefs dans les diocèses, il y avait toujours une question qui est responsable pour leur permission pour faire une investigation des choses accusées. Maintenant, c'est très clair, c'est le pape qui est le chef de l'Église, et c'est lui qui va faire des dispositions pour faire les enquêtes nécessaires pour déterminer la culpabilité des évêques qui sont coupables non seulement des actes sexuels, des crimes de sexe contre les mineurs ou même contre les adultes vulnérables, mais aussi les évêques maintenant sont sujets à punition s'ils font des efforts d'éluder des enquêtes ou d'interférer avec les enquêtes civiles. Ça signifie que si l'évêque, par exemple, reçoit un rapport que quelqu'un dit cet évêque a fait quelque chose de très mauvais contre le sixième commandement, l'évêque reçoit cette accusation contre un prêtre et l'évêque dit non, je ne vous fais rien, il ne fait rien maintenant, on peut accuser cet évêque devant son siège, devant le pape. Et le pape maintenant a dit qu'on va investiguer ce type de comportement comme offense contre la loi de l'Église.
Est-ce que vous pensez que ça va vraiment arrêter son comportement?
Bon, c'est toujours la question dans le domaine de la loi, parce que les lois existent expressément pour le fait qu'il y a les crimes. Le péché existe et les crimes, qui sont des péchés sérieux, ça signifie toujours la loi indique qu'il y a un comportement mauvais, on doit supprimer ce type de comportement. Et un moyen, c'est d'identifier les coupables pour dissuader, pour faire les autres de ne pas risquer ce type de comportement mauvais pour éviter les peines, les punitions. Et bon, je pense que dans le domaine des évêques, c'est très important. Maintenant, les évêques seront un sujet à ces enquêtes de part de son siège, exactement selon ce que le pape a noté, a promulgué dans cette lettre apostolique. On ne peut pas dire que c'est pas connu ce qu'on doit faire si un évêque est accusé de cacher des crimes des prêtres ou même de faire les crimes lui-même. Maintenant, on doit soumettre cette accusation au pape, nonce apostolique dans le pays, et le Vatican maintenant va suivre la procédure indiquée pour faire investigation, pour faire enquête et pour arriver à une décision si l'évêque est coupable ou non.
Est-ce que la loi canonique qui existait permettait aux auteurs de ces abus d'échapper aux sanctions?
Ça c'est un débat parce que souvent le problème n'était pas que la loi n'était pas dans les livres des lois, mais que les autorités ne voulaient pas mettre en disposition tout cela. Ils voulaient éviter d'être appelés devant la justice. Maintenant, c'est clair ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, et avec la sûreté de savoir que la certitude existe maintenant. Si on fait un rapport d'un abus sexuel au nonce apostolique, ça sera transmis au Vatican et le Vatican doit répondre. Et normalement, le Vatican va dire qu'il y a un autre évêque qui va faire l'enquête ici dans le pays pour arriver à une décision, et cette décision doit être faite assez rapidement. Il y a une limite de 3 mois pour l'investigation. Alors, je pense que ça aura un bon effet parce que nous avons des tristes histoires en Amérique, en notre pays, des évêques qui ont fait des très mauvaises actions ou ont caché les crimes de leurs prêtres et qui ont échappé complètement jusqu'à maintenant à la justice.
Garde l'écoute, mon père, nous avons des auditeurs en ligne. Diarra Kanyoumé qui est au Mali. Diarra Kanyoumé, bonsoir.
Oui, bonsoir et bonsoir à toute la rédaction des Bureaux Afrique.
Votre contribution. Votre contribution, une question.
Oui, effectivement, à mon avis, je pense que vraiment, c'est que la démarche que le pape est en train de faire, je pense que c'est une bonne initiative, mais il faut imaginer que ce soit en Afrique ou bien que ce soit en Europe, en pays européen, je pense qu'il y a certaines lois quand on crée, mais après la loi, on ne respecte pas. Donc, je pense que vraiment, c'est que M. Pape est en train de faire au moins cette loi, je pense que vraiment, le peuple doit vraiment respecter cette loi. Sinon, la maison de Dieu, c'est pas n'importe quoi en fait. Donc, je pense que vraiment, nous tous, on a en train de chercher du Dieu, donc l'au-delà. Donc je pense qu'avant d'y arriver là-bas, donc, on doit respecter certaines situations entre nous. Donc je pense que vraiment, j'encourage, le monde doit encourager toujours le travail que M. Papa est en train de faire, à mon avis.
Merci, Diarra Kanyoumé. Nous avons Hassan Omar en ligne. Hassan, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et bonsoir à votre invité, monsieur.
Je vous écoute.
Moi, ce que je crois, c'est que c'est une très bonne initiative de mettre en place une loi canonique qui permet de réduire ou de dénoncer les abîmes par rapport aux fidèles. Mais l'important, c'est l'application. Est-ce qu'elle sera appliquée conformément à la loi? Est-ce qu'il y aura des chantages entre l'évêque et l'air supérieur, ou le prêtre et l'air supérieur, qui vont essayer de cacher, ou voilà, il y aura un chantage, sinon c'est à perdre sur toi, si tu te dénonces, voilà, il y aura une répercussion sur toi. Donc, et je voudrais demander à votre invité une question qui me semble importante, c'est est-ce qu'après la mise en examen, si on peut dire ainsi, ou est-ce qu'après enquête de l'Église, est-ce que l'Église va mettre à la disposition de la loi,
donc, de la justice, si vous voulez dire.
La justice étatique, oui.
Père Mouret.
Hein, parce que la connexion était mauvaise.
Oui, notre auditeur demande si l'Église, la hiérarchie de l'Église termine ses enquêtes et qu'elle établit qu'un religieux tel ou un prêtre tel a commis cet acte. Est-ce que l'Église va le mettre devant la justice?
Oui, la justice civile du pays, et ça signifie.
C'est ça.
Oui, non, ça c'est le article numéro 19 que l'Église dit qu'on doit suivre les obligations pour signaler ce qui est des crimes aux autorités civiles. Et ça, sur le cas, par exemple, où il y a quelque chose qui est pas seulement offense contre le commandement, le sixième commandement, mais aussi contre la loi civile de ce pays-là. Oui, et cette coopération déjà est présente. Nous avons deux cardinaux qui étaient jugés devant la justice en France et en Australie récemment. Et l'Église n'a fait rien pour éviter qu'on se sorte pour ces évêques accusés. Mais voilà que dans l'Église, nous avons aussi le besoin de défendre la sainteté de l'Église. Et si l'évêque, par exemple, s'il a une petite amie à côté, une femme qui est comme son mari, son mariage, son femme, son mariage, pardon, et le Vatican détermine que c'est vraiment vrai qu'il a fait cela, il doit se démissionner, il sera viré par le pape, même si la justice dans ce pays ne considère cela un crime. Alors, le Vatican doit être très vigilant parce que la crédibilité de l'Église, ça signifie l'effort de vivre selon l'Évangile doit être soutenu et pas supprimé par les actes des autorités dans l'Église.
Mais le pape a demandé aussi que le secret de la confession demeure absolu. Donc un prêtre ne peut donc toujours pas rapporter des faits évoqués par un fidèle dans le confessionnal.
Non.
Est-ce non. que ça ne va pas mettre en difficulté l'efficacité de cette nouvelle modification introduite dans la loi canonique?
Non, parce que, bon, ce qui est dans la confession est inviolable par sa nature, parce que c'est une conversation aux yeux de Dieu, et ça concerne un pécheur qui ne veut pas être mis devant les autres par ce qui dit le prêtre. Alors le prêtre ne peut pas parler de cela, mais le prêtre peut dire, si quelqu'un vient se confesser qu'il a fait des crimes d'impureté avec un prêtre, un évêque, le prêtre peut dire, bon, vous allez recevoir l'absolution, vous êtes repenti, mais maintenant c'est à vous d'aller pour faire public devant les autorités de l'Église ce qui s'est passé, et l'Église va suivre maintenant cette loi pour rendre justice dans les cas. Alors, c'est pas que si quelqu'un fait la confession, il n'est pas obligé au secret, seulement le prêtre qui écoute les confessions est obligé au secret.
Regardez, écoute mon père, nous avons Junior Kinumbe qui est en RDC. Junior, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, je vous écoute.
Je pense que c'est une initiative de la part de pour sauver l'image de l'Église catholique qui est transmise par ces jeunes pratiques. Je préférais demander est-ce qu'il s'est forcé de devenir prêtre parce que je vois qu'ils ne respectent plus leur engagement. Parce que quand vous devenez prêtre, vous n'avez pas fait de tentatives. Et c'est ce que nous voyons, nous voyons aujourd'hui. Et de telles bêtises au niveau qui passent partout, dans tous les pays du monde. Ce que moi je suggérerais est que ces nouvelles lois soient mises en pratique, la praticabilité de ces lois-là, qu'elles soient mises en pratique, et cela va nous aider. Et bien que les prêtres auront pratiqué ces bêtises-là, que la justice des pays se trouve puisse le poursuivre et mener des enquêtes concrètes qui puissent aussi soumis à la lumière de la loi. C'est ça que moi je propose.
Merci, Junior. Nous avons Isaac de la Croix. Isaac, bonsoir.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir à tous les auditeurs de ma vie et moi.
Vous pensez qu'il faut plutôt légaliser le mariage des prêtres? C'est ça la solution?
Oui, effectivement, je me dis que proposer cette loi, ce n'est pas s'attaquer au fond du problème. Parce que on peut peut-être dire que les victimes puissent avoir libéré cette parole-là, qui ont la capacité de pouvoir s'exprimer. Mais je pense que le fond du problème, c'est le fait que les prêtres n'ont pas le choix de pouvoir choisir de quelle manière ils peuvent servir leur Dieu. Qui aurait moyen de pouvoir leur permettre à ceux qui veulent se marier de se marier, à ceux qui veulent garder le célibat, de rester célibataire, et ainsi ça pourra éviter ce scandale de pédophilie au sein de l'Église et après vraiment résoudre le problème. Mais pour ce qui est de la libération de la parole des gens à travers les témoignages et tout ça, je ne pense pas vraiment que l'Église aura le courage de pouvoir traduire un seul membre du clergé devant un tribunal, surtout pour l'image de l'Église dans la communauté. C'est un peu ça, mon avis.
Merci Isaac de la Croix. Mon père, un commentaire sur les interrogations soulevées par nos auditeurs.
Oui, non, j'écoute cela souvent et je dirais en réponse ce que je viens de lire dans le nouveau livre de Cardinal Robert Sarah, Le livre s'appelle « Le soir approche et déjà le jour baisse » et il dit brièvement « Le prêtre, par son célibat, renonce à épanouir humainement sa capacité d'être époux et père selon la chair. Il choisit par amour de s'en déposséder pour vivre en époux exclusif de l'Église, tout entier offert au Père. Je vous clamais avant tant de mes frères prêtres ma profonde souffrance devant le mépris du célibat sacerdotal. » Alors je partage ce qu'il dit le cardinal parce que pour moi c'est la solution des problèmes dans l'Église, mais c'est pas de mettre à côté le célibat des prêtres, c'est d'assurer que seulement les gens qui sont vraiment déterminés de vivre le célibat complètement dans leur vie doivent être ordonnés prêtres, et les prêtres qui ont fait des fautes doivent se repentir ou doit sortir du prêtrise si on a des enfants, le résultat de nos péchés. Mais c'est pas de dire c'est impossible de vivre le célibat. Le célibat, c'est une chose qui
doit un
être cet aspect de Christ et de liberté de servir au peuple.
Oui, il y a un auditeur qui a dit que ça va permettre à l'Église de sauver son image. Est-ce que l'objectif est uniquement à sauver l'image ou c'est plutôt à mettre fin à ces crimes, à ces crimes?
Oui, non, l'image de l'Église, ça dépend du point de vue des autres. Si on juge l'Église, disons même si les prêtres et les évêques font du péché, ça signifie que l'Église n'est pas vraie. Ça, c'est une fausseté. Même Jésus-Christ avait Judas Iscariote, qui était traiteur, qui n'a pas fait ce qu'il a dit quand il a dit oui à suivre Jésus. Alors, on doit dire, l'Église, c'est Jésus, et les saints qui suivent Jésus donnent le bon exemple, les pécheurs donnent le mauvais exemple, mais c'est toujours Jésus qui est au centre de l'Église, et ce qui doit être au centre de vie de tout le monde, spécialement les prêtres.
Il y a Conan Félix qui dit « Je ne crois pas que cette mesure puisse freiner un seul instant ces différents abus sexuels. Mieux vaut laisser les prêtres et les et différents religieux se marier et fonder des foyers en bon et due forme. » Saliou Mama, il dit « Non, il faut plutôt autoriser les prêtres à se marier publiquement. » Vincent Rabonimana, il dit « C'est une décision sérieuse, vraiment. » Ça va changer remarquablement l'image de l'Église. Et Rocky Marina il dit cette décision a trop tardé et permettra parce que la loi qui existait permettait à certains prêtres d'exercer de l'anarchie sexuelle sur les plus fragiles. Il y a Marie-Jeanne Abega qui dit l'hypocrisie qu'il y a à l'Église n'est pas favorable à la dénonciation. Les victimes continueront de digérer ce sadisme. Je cite Marie-Jeanne Abega. Mon père, que dites-vous à Marie-Jeanne?
Bon, je dirais, l'Église vraiment a fait beaucoup de tort en compte des fidèles quand ils ont caché les mauvais prêtres qui n'ont pas châtié les gens qui étaient coupables de ce type de crime. Et c'est vraiment une chose qui est douloureuse de réfléchir. Mais maintenant que le pape et les évêques sont déterminés de mettre fin à ce type de comportement qui est vraiment anarchie sexuelle, c'est vrai, c'est ce que c'est. On doit dire, grâce à Dieu, maintenant, l'Église catholique doit être plus vigilante et les crimes seront châtiés forcément avec cet esprit de Jésus quand il a chassé du temple les gens qui ont fait tort en contre de sainteté du temple. Mais bon, juste comme prêtre, je suis très triste quand je lis les histoires de mes frères prêtres, ce qu'ils ont fait, et je voudrais dire que ce type de prêtre ne doit pas exister. Il doit être mis hors de prêtrise parce qu'ils ont vraiment suivi à l'image du Christ.
Merci mon père, j'espère qu'il y aura des mécanismes pour suivre justement que cette loi canonique est mise en application. Le texte met un accent particulier sur les mineurs et les personnes vulnérables de tous âges. Il évoque plus généralement généralement des actes sexuels subis sous la menace ou par abus d'autorité, ce qui inclut donc les viols de religieuses ou le harcèlement de séminaristes. Le pape rappelle à l'autre qu'il est interdit de produire, détenir et partager du matériel pédopornographique. Et c'est la fin de ce dialogue des religions. Merci à mon père Mouret pour sa grande contribution. Merci à tous les auditeurs et à tous mes confrères